Je vous propose l'ordre des interventions suivantes. Monsieur Christian Sauter, adjoint au maire de Paris, délégué au développement économique, finances et emploi. Henri Rouille d'Orfeuille, président de Finansol. À la suite des deux premiers intervenants, nous entamerons le premier débat de la première série de questions. Ensuite, nous entendrons Monsieur Patrice Bouquet-Deschaux, membre du directoire de la Nef, Monsieur Yves Barnoux, président de l'Association territoriale des Cigales Île-de-France, Monsieur Denis de Menton, chargé de mission à l'association Faux France Active, et Monsieur Marcel Hipsmann, des financements solidaires, de la bourse au financement solidaire. Texte de 10 minutes, 5 minutes. Si dans le domaine de l'économie solidaire, la première condition de réussite relève de la qualité du portage de projets et de la mobilisation partenariale, la question financière intervient rapidement comme l'un des facteurs de formalisation et de viabilisation des initiatives. À ce niveau, plusieurs problèmes se posent pour accéder au système classique de financement. Premièrement, la situation des nouveaux entrepreneurs, demandeurs d'emploi, personnes à faibles ressources, insolites dans le milieu de la création économique, inquiète. Deuxièmement, les activités choisies, micro-activités, domaines novateurs dont la solvabilisation n'est pas toujours lisible, apparaissent au premier regard des financiers peu crédibles. Troisièmement, les statuts juridiques retenus semblent risqués, car que ce soit dans le cas des associations, sans capital et la plupart du temps sans marge de trésorerie, elles ne peuvent fonctionner sans escompte, loi d'AI ou autorisation de découvert, et ne trouvent de crédit auprès des banques que si elles bénéficient d'un positionnement parapublic, d'une garantie extérieure ou si elles ont réussi à accumuler précédemment des fonds propres ou un patrimoine immobilier. Dans le cas des sociétés coopératives, l'apport initial du créateur, qui reste souvent minime, n'est pas rassurant. Le sujet de gestion coopérative, dont les règles sont largement méconnues, déstabilise. Le risque non peu rémunéré impose une véritable adhésion à l'éthique du projet. Quatrièmement, les pratiques de partenariat, de mutualisation, de moyens de démocratie interne déroutent. Pour promouvoir le financement de l'initiative en économie sociale et solidaire, la complémentarité de plusieurs types d'interventions doit donc pouvoir être organisée. Développer les outils financiers de proximité, par exemple de type épargne salariale, rapidement mobilisables, et dans lesquels l'éthique du projet, création d'emplois, lutte contre l'exclusion, est reconnue comme un critère d'éligibilité prédominant. Organiser des dispositifs permettant la solvabilisation de la demande, basée sur le rapprochement entre entrepreneurs et consommateurs. Mobiliser des financements privés, fondations ou publics, aux procédures les plus souples possibles, et pour lesquels on admet le principe de la confiance à l'initiative et donc de l'évaluation a posteriori. Contribuer collectivement à l'évaluation des pratiques bancaires classiques. Déplacement alternatif et solidaire. Initié dès les années 30 dans les pays anglo-saxons autour de placements boursiers, éthiques dédiés à une moralisation de l'économie, l'épargne solidaire a commencé véritablement à se dessiner en France dans les années 80. Cette fois plus spécifiquement en réaction à la croissance incontrôlable du chômage. Conscient de l'impuissance des politiques macroéconomiques, des militants associatifs et des élus locaux se sont mobilisés à cette époque pour promouvoir une approche locale de la création d'emplois et d'activités. Pour donner écho aux initiatives des entrepreneurs solidaires et aux efforts des salariés engagés, Les premières initiatives de capital risque gérées en proximité sont alors approuvées. Je vais maintenant donner donc la parole à Christian Sauter.
Merci. Je veux dire d'emblée que je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Une raison modeste mais non négligeable, c'est que nous sommes dans la maison des métallos, qui était un lieu mort jusqu'en mars 2001 et qui maintenant devient un lieu de vie, un lieu de réflexion, un lieu de débat, et je crois que c'est formidable. Mais ce qui me rend particulièrement heureux, c'est d'être avec vous, des passionnés et des acteurs de l'économie solidaire. Et je vais y revenir dans un instant, mais avant, je voudrais quand même dire merci à trois personnes qui ont permis que cette réunion soit possible. D'abord, Isabelle Giroux-Morin et Daniel Auffray. Je crois qu'avec moi, on a travaillé tous les trois pour que ces premières rencontres parisiennes de l'économie solidaire aient lieu. Donc ça fait déjà deux personnes, hein, Isabelle Giroux-Morin que vous connaissez et Daniel Auffray aussi. Puis la troisième, c'est Michel Yaël et son équipe. Hein, il dirige un des services de la ville, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous le voyez de dos et de face, il est encore mieux. Et il est directeur du développement de l'activité économique et de l'emploi, et c'est aussi un passionné de l'économie solidaire. Alors, il se trouve que, à côté de mes responsabilités à la ville de Paris, où, comme vous l'avez dit, je suis adjoint, on pense qu'aux finances, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que les finances, n'est-ce pas, Isabelle? Je suis adjoint au développement économique et à l'emploi, et il se trouve que par ailleurs, mais ça c'est mon cumul de mandats, je préside une association qui s'appelle France Active, et qui a aidé l'an dernier à consolider l'emploi de 5747 personnes, dont 80% sont des personnes en difficulté. Donc c'est un organisme qui existe dans l'économie solidaire, mais Denis de Menton vous en parlera tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais vous dire, j'ai pas le droit d'être très long, hein. Bon, non, parce qu'Henri Rouillet d'Orfeuille, que je connais bien, lui aussi il est très très concis, donc si j'ai été trop long, ça serait très méchant à son égard. Donc, je veux dire d'emblée que je crois à l'économie solidaire, et cet acte de foi est important avant toute action. À l'évidence, nos prédécesseurs n'y croyaient pas beaucoup, en tout cas, s'ils y croyaient, ils ne faisaient pas grand-chose. Bon, moi j'y crois, je crois à l'existence d'un tiers secteur, hein. Donc vous voyez, je mets la barre assez haut, entre l'économie capitaliste et l'économie administrée. Ce tiers secteur, c'est l'économie solidaire. Hein, c'est une forme d'économie marchande, on est sur le marché, mais c'est une économie marchande sans but lucratif. Bon. Et ça représente, faut le savoir, ça représente 10% de l'emploi en France, hein, tout le mouvement mutualiste en fait partie, et dans ces structures, c'est pas un patron de droit divin qui dirige, chaque membre de l'économie solidaire a une voix, donc a le droit à la participation, et le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'exercer avec efficacité la solidarité. Alors dans cette économie solidaire au sens large, ou économie sociale, il y a l'économie sociale et solidaire qui s'occupe particulièrement, dans un but évidemment non lucratif, mais dans le cadre du marché, qui s'occupe des personnes qui sont en grande difficulté. Alors, pour en venir à Paris, très rapidement, nous avons en la matière un très grand retard à combler. Pourquoi ? Parce que nous avons plus de 40 000 chômeurs de longue durée, et on est plus près maintenant de 50 000 que de 40 000. On a près de 50 000 RMistes, et donc ce sont des personnes pour lesquelles nous croyons, enfin vous croyez, et moi je crois en tout cas qu'il n'y a pas de fatalité du chômage, il n'y a pas de fatalité de l'assistance à vie. Il y a une possibilité de retour à l'emploi à condition que chacun se mobilise dans cette direction. Et lorsque nous sommes arrivés dans les structures d'économie solidaire, il y avait une seule régie de quartier, il y avait seulement 18 entreprises d'insertion, ce qui vraiment par rapport à la population parisienne confinait au ridicule. Donc l'ambition que nous avons affichée dès le départ, et ce n'est pas un nous de majesté, c'est un nous collectif, c'est de passer de une régie de quartier à 12 régies de quartier, c'est-à-dire au moins une régie de quartier par quartier dit de la politique de la ville, donc quartier en difficulté. Et nous voulons aussi passer de 18 entreprises d'insertion à 30 entreprises d'insertion. Si on fait davantage, on ne se fera pas gronder, mais disons qu'on a mis la barre déjà assez haut. Et on a travaillé dans deux directions. Hein. La première, et là je vais parler un peu de finances. D'abord, on a créé au sein de la fameuse direction de M. Yael un bureau de l'insertion et de l'économie solidaire, ce qui n'existait pas à Paris. Donc il y a une belle équipe de fonctionnaires qui travaillent uniquement sur ce sujet. Et nous apportons des soutiens financiers à un certain nombre d'entreprises ou d'associations solidaires. Je ne veux pas vous bombarder de chiffres parce que je crois que ce serait assez ennuyeux, mais je peux vous dire que pour l'année 2002, et on va faire le bilan devant le Conseil de Paris lundi, et Isabelle Guiraud-Morin pourra peut-être même intervenir sur l'économie solidaire, on ne sait jamais. Bon, nous avons aidé en 2002 20 associations intermédiaires, 25 entreprises d'insertion, ce qui paraît bizarre si je vous dis qu'il y en avait 18, mais il y en a 17 à Paris et il y en a quelques-unes en dehors de Paris, mais où des Parisiens peuvent travailler, 6 entreprises de travail temporaire d'insertion, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ce que les spécialistes appellent un GEC, 2 régies de quartier, parce que déjà on est passé de 1 à 2, mais on a encore du chemin, et 10 chantiers d'insertion. Bon. Au total, ça représente des personnes au travail. J'ai pas fait le total, mais je l'ai à peu près ici. Ça doit faire entre 5 000 et 6 000 personnes en grande difficulté qui ont été aidées en 2002. Alors, c'est pas encore beaucoup, mais c'est mieux qu'avant. Alors, si vous aimez les chiffres avec moi, vous êtes servis. Hein. Au total, on a investi, parce que je considère que c'est un investissement humain, hein, c'est pas de l'argent qui est donné, c'est vraiment de l'argent qui est consacré à l'amélioration de la vie et au retour de l'espoir de ces personnes. Au total, l'an dernier, on a dépensé 1,6 million d'euros, ce qui n'est pas mal. C'est surtout près de 2,5 fois ce que l'on avait dépensé en 2001, et en 2001 on arrivait juste. Hein. Donc par pudeur, on ne m'a pas indiqué le chiffre de 2000 parce que ça aurait fait un peu trop impressionnant. Alors donc voilà ce que nous avons fait en 2002. Ça montre vraiment que non seulement nous avons des convictions, nous avons des idées, mais que l'ensemble de la majorité municipale actuelle avec l'appui de services compétents, met le paquet pour aider des personnes en grande difficulté. Ça, c'est le premier moyen. Et puis, le deuxième moyen, parce qu'on ne fait pas nous-mêmes, très souvent, parce qu'on considère que ces personnes en grande difficulté ont besoin d'un traitement sur mesure. Chacune d'entre elles est un cas particulier, donc il y a besoin d'un accompagnement très personnalisé. Alors, même si les fonctionnaires de la ville sont formidables, ils ne peuvent pas chacun prendre en charge 10 ou 20 personnes. Donc, nous appuyons sur des associations que vous connaissez, puisque elles vont participer cet après-midi aux ateliers où elles y ont participé ce matin. Nous avons une convention de financement avec l'ADI. Tout le monde connaît l'ADI. Nous avons une convention de financement avec les boutiques de gestion. Nous avons une convention de financement avec les Cigales. Et nous avons enfin une convention de financement avec l'URSCOP Île-de-France. Alors l'URSCOP, c'est l'Union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production. Alors je ne vous ferai pas l'injure de croire, de dire que les SCOP, ce sont des survivances du 19e siècle, hein, à l'époque du Fourierisme. C'est quelque chose qui est en pleine expansion. Hein, et cette union régionale est très dynamique, et nous avons passé avec elle, comme avec l'ADI, comme avec les Cigales, comme avec les boutiques de gestion, on vous donne de l'argent, mais vous vous engagez sur des résultats précis que tout le monde, y compris les élus, peuvent vérifier. Donc nous allons développer les coopératives ouvrières de production sur Paris. Et notre objectif en la matière, par exemple, c'est de créer à Paris 15 nouvelles SCOP par an, et faciliter un certain nombre de reprises d'entreprises. Bon, voilà un certain nombre d'exemples. J'ai pas voulu vous faire du lyrisme. Ce que j'ai simplement voulu vous dire, sans entrer dans le détail des procédures de financement, parce que d'autres intervenants sont beaucoup plus qualifiés que moi, j'ai simplement voulu vous dire que vraiment la nouvelle équipe parisienne croit à l'économie solidaire et prend les moyens nécessaires pour vraiment nous mettre, non pas nous rendre exemplaires, quoiqu'on a sûrement l'intention d'être exemplaires dans le domaine de l'économie solidaire, en tout cas Isabelle Guiroux-Morin a certainement ce souhait, mais d'abord de rattraper notre retard par rapport à beaucoup de grandes villes françaises. Donc nous mettons le paquet, nous obtenons déjà un certain nombre de résultats, et je pense que grâce à cette mobilisation des élus, des services, des moyens financiers nécessaires, on va faire reculer sur Paris le chômage de longue durée et le nombre de titulaires du revenu minimum d'insertion. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je voulais vraiment apporter ce témoignage et cet engagement. Je crois vraiment, je le répète, que le tiers secteur, c'est une forme d'activité économique, c'est de l'économie, mais ça se faufile et ça va se développer entre les très grandes masses, une en expansion qui est l'économie capitaliste qui cherche des profits le plus souvent fugaces, et l'économie administrée qui, depuis quelques années, a un petit peu de plomb dans l'aile. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur l'Animateur, les quelques mots que je voulais dire en introduction.
Monsieur le maire, je vous remercie. Je crois que les chiffres que vous avez cités donc parlent d'eux-mêmes et méritent un satisfecit pour l'effort de la municipalité.
Voilà. Non, mais je vais m'occuper de la Sono. Hein. Alors, allez-y.
Et sont encourageants, mais au-delà des chiffres, ce que j'ai retenu aussi dans vos propos malgré tout, c'est que vous avez signalé pour cela les 5 à 6 000 personnes qui ont été aidées. C'est un retour à l'espoir, et pour eux plus que ça peut-être, c'est un retour à la dignité d'homme, tout simplement. Ça, je crois que c'est important dans le travail.
Vous le dites très fort, ça c'est très important.
Oui, je crois que vous avez signalé le retour à l'espoir, mais pour eux c'est un retour à la dignité d'homme, d'individu et de citoyen.
Je peux rajouter juste un mot?
Oui, je vous en prie.
Tu m'excuses, Henri.
Oui, juste un mot pour vous dire que nous allons organiser à la mi-octobre, Isabelle Guiroux-Morin a peut-être déjà parlé ou elle en parlera tout à l'heure, nous allons organiser à l'Hôtel de Ville sur le Parvis, des paris pour l'emploi, où il y aura à la fois des entreprises ou des administrations qui viendront proposer des emplois aux chômeurs, donc un contact direct, et d'autre part, nous tiendrons un certain nombre d'ateliers de réflexion, et j'espère, je crois qu'Isabelle Guiroux-Morin y pousse, elle a bien raison, je pense qu'on tiendra un atelier sur l'économie solidaire, et à l'évidence, tout ce que vous faites aujourd'hui va nourrir cet atelier, et j'espère peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là. Donc, vous notez, jeudi 15, jeudi 16 et vendredi 17 octobre, vous aurez tous les détails sur le site internet de la ville bientôt. Et il y aura aussi des initiatives dans les différentes mairies d'arrondissement, probablement le samedi 18 octobre.
Merci. Oui, maintenant donc je vais, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, passer la parole à Henri Rouillet d'Orfeuille, président de Finansol.
Merci beaucoup. Bon, c'est une grande nouvelle d'entendre l'expression du dynamisme de la ville de Paris, notre capitale, dans notre domaine. Je pense que ce domaine qui reste toujours modeste et petit est lui-même l'objet d'une dynamique assez forte, puisque à peu près tous les indicateurs, le nombre d'épargnants, le nombre d'entreprises financées, l'encours de l'épargne, ont un taux de croissance depuis 5 ou 6 ans de à peu près 20% par an, avec même des la possibilité de sauts beaucoup plus importants, puisque on doit pouvoir maintenant bénéficier d'un certain nombre de travaux dans le domaine législatif, comme la loi sur l'épargne salariale, une avancée sur la loi de finances qui a été obtenue il y a 2-3 ans. Et donc, je fais quoi là? J'ai France Inter et Radio Luxe.
Tu fais de la stéréo, c'est bon.
J'ai besoin d'un deuxième micro ou bien? Ah bon, deux micros, d'accord.
Ils sont solidaires.
D'accord. Alors, voilà. Donc ça dépend les phrases, mais comme... Bon. Oui, donc on a la perspective de sauts beaucoup plus importants sur le plan quantitatif, avec les avancées législatives qu'on a eues, et on espère en avoir d'autres. Alors moi, ce qui me revient peut-être comme président de FinanSol, qui est la fédération des acteurs de la finance solidaire, c'est peut-être de vous présenter rapidement notre famille et vous dire que l'origine de la famille, ce sont des initiatives décentralisées, associatives, même parfois personnelles, des initiatives qui répondaient à des situations concrètes de crise. Hein, beaucoup de nos mouvements sont nés à la jointure des années 70-80, à l'époque où se manifestait une crise sociale non seulement forte mais nouvelle, c'est-à-dire que l'État n'arrivait plus à remplir le contrat social au fond qui était le sien, c'est-à-dire de réparer les dégâts de l'économie. Jusqu'à présent ça tenait à peu près, et là tout d'un coup on a vu exploser les courbes de chômage jusqu'à atteindre 3 millions. Alors qu'on était au début des années 70 dans une situation de quasi plein emploi avec simplement des rotations dans le chômage. Et face à cette situation, la voie du salariat au fond était bloquée pour beaucoup de gens, et on a vu s'accumuler des exclusions, et un certain nombre d'initiatives ont été prises sur la base de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de dire, bon, on ne peut pas rentrer dans le salariat, dans l'économie, on va essayer d'aider des personnes à créer leurs propres activités ou leurs entreprises, soit de le faire individuellement, soit de le faire de manière plus collective. Et pratiquement tous nos mouvements sont nés de ces initiatives qui n'étaient pas des exercices intellectuels, qui étaient simplement des réponses à des situations concrètes vécues. C'est ainsi, je vais citer rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sont nés pratiquement tous nos mouvements, qui ont une grande diversité de modalités de travail, qui utilisent la finance de manière très différente, parce que tout ça est né de manière décentralisée. Donc c'est le cas par exemple de la NEF, j'insiste pas, qui est née dans la fin des années 70, surtout autour de la question du crédit. C'est le cas des clubs d'investisseurs Cigale, qui consistent, ce sera expliqué tout à l'heure aussi, à ce qu'un groupe de personnes se réunissent pour épargner ensemble et aider et prendre du capital dans une petite société qui démarre, dans le voisinage en général. Ça a pu être le cas dans certaines régions, avec le cas le plus célèbre qui est celui du Nord-Pas-de-Calais, où sont nés d'abord une société de capital risque, autonomie et solidarité, et puis une banque, ou pas une banque, mais un établissement financier derrière la Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais. Mais aussi, on a vu des choses équivalentes en Alsace, en Bretagne, et dans d'autres régions. C'est le cas également de sociétés de capital risque qui sont nées dans plusieurs régions, et d'abord à Paris avec la société Garrigue. C'est le cas bien sûr de France Active, dont Christian Sauter est le président, qui a construit des fonds territoriaux qui permettent de garantir les finances solidaires dans les différentes régions, et par ailleurs d'aider les sociétés d'insertion principalement à démarrer et à acquérir un capital. C'est le cas d'Habitat et Humanisme, qui s'occupe de collecter dans une foncière de l'épargne, d'acheter des appartements, de les rénover avec des familles en difficulté et de loger ces familles, tout ça étant dans l'économie, puisque les familles payent un loyer qui est en général bas, puisque tout ça, comme ce sont des personnes en grande difficulté, peut se mixer avec des aides diverses. Donc il y a toute une ingénierie du financement public, privé, associatif, qui se construit derrière ces outils financiers. C'est le cas de l'ADI, bien sûr, qui fait du microcrédit, qui est né un peu comme héritière d'expériences importantes en Asie. qui aujourd'hui fait quand même pratiquement 4000 prêts par an, donc sort de la difficulté pratiquement 4000 personnes. Certaines personnes ne réussissent pas, parce qu'il y a pas, on ne gagne pas à tous les coups dans l'économie. Et puis c'est le cas d'un certain nombre d'organisations comme la CIDI, Oiko Crédit, Cofides Nord-Sud, qui se sont attaqués à la solidarité internationale et qui collectent de l'épargne dans nos pays, ici en France en tout cas, et le transfert capitalise des petites banques dans le Sud qui elles-mêmes vont faire du microcrédit pour la CIDI. C'est dans 23 pays, il y a 23 banques, quasi-banques qui sont aidées de cette manière-là. Alors, je crois que, vous voyez, de toutes ces initiatives sont nées des mouvements qui ont commencé à mailler le territoire, les clubs Cigale, l'ADI, Habitat Humanisme et les autres. Et vers la moitié des années 90, ces différents acteurs se sont rapprochés. Évidemment, chacun savait qu'ils faisaient de la finance à leur manière, mais ils n'avaient pas engagé des coopérations très, très importantes. Et vers la moitié des années 90, ils se sont réunis autour d'une question simple. Pourquoi est-ce qu'on ne se doterait pas d'une banque solidaire? Puisqu'après tout, on a besoin d'un outil bancaire. On ne peut pas chacun construire une banque. C'est une affaire compliquée. L'épargne en France est très surveillée, comme partout dans le monde. Et c'est une bonne chose. Donc ils se sont réunis autour de cette question. En fait, après des débats assez contradictoires, ils ont convenu que c'était sans doute trop d'énergie, peut-être trop de compétences, et qu'il valait mieux rediscuter les relations avec les banques, notamment les banques de l'économie sociale, même essentiellement. Et donc c'est constitué une sorte de partenariat entre ces différents acteurs de la finance solidaire, entre eux d'abord, et puis rapidement avec 5 banques qui sont entrées dans une sorte de collectif qui s'est appelé Finansol. Alors Finansol donc est un acteur fédératif qui est créé par ses membres, c'est pas le contraire, hein, et qui a récupéré un certain nombre de fonctions collectives. La première, c'est de faciliter les échanges dans le monde de la finance solidaire. Comme on part de points du territoire et de compétences variées, l'échange est extrêmement riche et intéressant. Deuxième fonction, promouvoir les finances solidaires et notamment les produits financiers solidaires. Hein. Promouvoir, ça veut dire garantir aussi auprès des épargnants, parce que dès qu'on sort du réseau de confiance de la famille proche, si vous voulez, et qu'on va vers des épargnants qu'on ne connaît pas, il faut pouvoir lui garantir que l'effort qu'il fait, puisque les finances solidaires, l'épargnant fait un effort, il renonce à une partie de son revenu financier par exemple, eh bien il faut pouvoir lui garantir que cet effort-là n'est pas récupéré au passage par des intermédiaires, mais va bien directement aider des personnes en difficulté, d'où l'idée d'avoir un label. Et aujourd'hui on a 32 produits financiers labellisés, et je crois que c'est un label assez solide, et qui donne garantie donc à tout épargnant qui place de l'argent sur ces produits financiers que cet argent va être canalisé vers des secteurs et des personnes en difficulté. Une fonction aussi pour Finansol de relations avec les pouvoirs publics, notamment sur des problèmes de loi, de fiscalité, et puis de plus en plus une fonction de relations internationales, européennes, internationales, puisque au fond, notre expérience d'initiative décentralisée, elle est la même partout dans le monde, sont nées dans tous les pays pratiquement des expériences pour répondre à peu près au même problème d'exclusion, pour répondre aussi au retrait de la finance classique, de l'économie classique. Hein, voilà. Alors, une autre étape a été la nomination d'un ministre ou d'un secrétaire d'État au sein du gouvernement Jospin. C'était non seulement la création d'un secrétaire d'État, mais je crois que c'était l'ensemble du gouvernement qui a eu par là même un signal que nos affaires d'économie solidaire, de finances solidaires, devaient faire partie d'une politique publique et gouvernementale. Bon, ça a avancé plus ou moins vite, mais néanmoins c'est à cette époque-là quand même qu'on a négocié la sortie solidaire de la loi sur l'épargne salariale et puis quelques avantages en termes de loi de finances. Alors aujourd'hui, quelques chiffres. si on additionne ce qui circule sur nos 32 produits labellisés, ça représente à peu près 300 millions d'euros. Alors c'est des chiffres assez compliqués parce qu'il y a des prises de participation, il y a du crédit, il y a des choses assez, assez diverses là-dedans. Mais 300 millions d'euros, évidemment c'est à la fois pas grand-chose parce que chaque jour entre les places boursières circule à peu près 2000 milliards d'euros, de dollars ou d'euros. Donc vous voyez, on n'est pas à l'échelle. Mais en même temps, ça cesse d'être une affaire complètement artisanale puisque quand même 300 millions d'euros, faut le gérer. On peut pas dire aux épargnants, bah, écoutez, voilà, vous pensiez avoir fait un prêt, en fait, vous avez fait un don. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est très professionnel. Ça exige de des acteurs de la finance solidaire beaucoup de rigueur. Ça représente à peu près 30 000 épargnants, ce qui là encore à la fois modeste et déjà pas rien. À peu près en 2002, 8 000 entreprises qui ont été financées pour 8 000 entreprises ont été créées par les finances solidaires. Et comme ce sont souvent des entreprises unipersonnelles, ça représente à peu près 15 000 emplois. Donc on retrouve les chiffres. L'échelle des chiffres qui ont été cités par Christian Sauter. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est parti de choses très locales, très concrètes. Aujourd'hui, je crois qu'on rencontre un certain nombre de grandes questions contemporaines. Bon, nous étions à Porto Alegre, et on rencontre le problème de la mondialisation, qui est d'abord financière. Et cette mondialisation se traduit effectivement par une concentration de plus en plus grande, donc ça veut dire une marginalisation aussi de plus en plus grande. Et bon, il faut évidemment critiquer ces processus, mais en même temps, il faut imaginer des solutions pour que un certain nombre de territoires, un certain nombre de personnes, de communautés et de peuples aient accès au crédit. Je crois que le crédit est un droit. Comme d'autres, un droit important. Ça rencontre ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui est un grand débat contemporain et qui est lié au fait, effectivement, de la perte de capacité des pouvoirs publics ou de l'État national d'imposer quelque chose à l'économie aujourd'hui. Donc, on en est à espérer que les chefs d'entreprise ou les entreprises elles-mêmes s'autodisciplinent et se montrent responsables sur le plan social et environnemental. Donc un certain nombre de grandes questions de ce type. Bien sûr, ça rencontre toujours les questions de chômage, bien sûr les questions de pauvreté. Et vous voyez qu'à l'échelle du monde, ce sont des questions qui ont une importance considérable. Déjà chez nous, elles sont importantes. Alors imaginez, dans des pays en voie de développement, à quel point la finance ou l'économie classique ne répondent pas aux besoins d'initiative des personnes. Alors juste un petit mot pour dire que parmi nos partenaires majeurs, il y a les collectivités territoriales qui bien sûr ont la préoccupation de la réinsertion, qui bien sûr ont la préoccupation du développement de territoires marginalisés, qui bien sûr ont la préoccupation du développement local, c'est-à-dire de jouer sur un facteur de proximité entre offre et demande de financement par exemple. Bon, à FinanSol, on a sorti un livre qui s'appelle « Le guide des élus » qui essaye de voir quelle peut être la responsabilité directe des collectivités territoriales ou des élus sur le renforcement de cette finance et de cette économie. Voilà, et donc je pense qu'on est, dans cette dynamique et le fait de rencontrer des grandes villes comme Paris, nous avons beaucoup de relations avec d'autres grandes villes, je pense à Lyon là, parce qu'on est en train de discuter avec eux, c'est certainement un partenariat très très important parce qu'il peut jouer à la fois sur la proximité et en même temps sur l'aménagement du territoire, sur les problèmes de réinsertion. Donc je crois qu'on est des partenaires tout à fait naturels et je pense que l'ensemble des membres de notre famille des finances solidaires est très heureuse d'entendre un langage positif et tout à fait prêt à rentrer dans des discussions, j'allais dire contractuelles, c'est-à-dire de dire bon ben voilà nous ce qu'on peut faire à notre niveau en tant que mobilisateur d'énergie privée et vous collectivité territoriale, voilà en quoi vous pourriez nous aider. Merci beaucoup.
Henri Rouillet d'Orfeuille, je vous remercie de cette intervention.
Et on peut comme génial l'idée là.
Oui. On peut féliciter donc Finansol pour avoir su fédérer et sécuriser l'épargne solidaire, mais surtout le véritable défi lancé, ça a été de compenser le retrait de la frilosité du secteur bancaire traditionnel. Donc sans le secteur bancaire traditionnel, il a bien fallu que l'économie solidaire se débrouille. Et heureusement que nous avons rencontré des gens qui, par leur initiative, par leur esprit d'invention dans un domaine qui n'est pas facile, celui de la finance, ont pu permettre à des gens de trouver une deuxième chance dans la vie. Alors maintenant, si vous le voulez bien, comme on l'a annoncé tout à l'heure, on va amorcer le débat entre nos deux premiers intervenants, si vous voulez, et puis la salle. Christian Sauter, bon, retenu par des obligations, devra malheureusement nous quitter un petit peu plus tôt. Voilà. Et j'en profite aussi pour le remercier, compte tenu de son calendrier chargé, d'avoir bien voulu nous consacrer un petit peu de temps.
Mais c'est passionnant.
Il faut venir là, alors.
Si vous venez ici...
Oui, il faut venir là. Hein.
Voilà. Nous, on sort.
Avec les micros, on n'est pas très solide.
Voilà. Voilà. C'est bon, allez, on y va. Non, go. Allez, sur rythme.
Juste avant le départ de Christian Sauter, la question s'adresse à Monsieur Henri d'Orfeuille. Concernant le développement des activités sociales et solidaires ici à Paris, on sait bien que lorsque la nouvelle majorité s'est engagée pour cette mandature-là, elle avait pris un certain nombre d'engagements relatifs donc à la stabilité pour maintenir certains équilibres de taux d'imposition, etc., qui, comme tout engagement, doivent être tenus, sauf accord de toutes les parties. Ceci étant, il y a une capacité de financement solidaire aujourd'hui d'un certain nombre de Parisiens. Est-ce que l'économie sociale et solidaire peut envisager de lancer un grand emprunt solidaire au bénéfice des activités de l'économie sociale et solidaire pour assurer donc un partenariat, un effet de levier important auquel la ville de Paris saurait ou souhaiterait ou pourrait s'impliquer à la hauteur de ses capacités et de ses engagements politiques? Alain Ternot, président de l'Association de développement durable du Nord de Seine, donc sur le bassin d'emploi du Nord parisien de part et d'autre du périphérique.
Oui, on va peut-être faire la série de questions, oui, et puis voilà, merci. D'autres interventions? Profitez tout de même de ce temps de débat.
Bon, je pense que c'est une question qui s'adresse aussi à Christian Sauter, enfin en tout cas la manière dont je vais répondre. Premièrement, on n'a pas de vraies statistiques territorialisées sur l'épargne. On voit à peu près au niveau de l'investissement, c'est-à-dire où l'épargne solidaire s'investit, parce qu'on le voit à travers les sociétés de capital risque ou les cigales, etc. Mais sur l'épargne, souvent ce sont des outils nationaux, vous voyez. Je ne peux pas vraiment répondre. Je pense que les Parisiens sont une partie notable. Probablement, ça doit correspondre à la moyenne, enfin à leur proportion dans la moyenne nationale. Mais peut-être que la Nef ou d'autres pourront répondre à la solidarité des Parisiens. Alors, ceci dit, je ne suis pas un grand spécialiste de ce que fait Paris, je dirais. On a discuté avec un certain nombre de grandes métropoles ou de grandes collectivités territoriales, de régions, et on s'est mis d'accord sur, notamment avec PACA, avec Rhône-Alpes, et avec Lyon surtout, sur l'idée de faire des campagnes à la fois publiques, en même temps de mobiliser... la collectivité mobiliserait à cette occasion-là ses propres réseaux, nous-mêmes ou les syndicats ou les comités d'entreprise, on essaierait de mobiliser les salariés, les associations à travers leurs réseaux, les militants, les banques, etc. Donc on essayera de faire une semaine des finances solidaires. C'est pas qu'on essayerait, c'est planifié, c'est pour octobre et novembre 2003. Donc moi je considère qu'avec Paris, en fait, on a eu d'excellentes relations déjà, mais on n'a pas construit, nous en tant que grande famille, je dirais, de la finance solidaire, un partenariat. L'idée d'un grand emprunt ou d'un outil financier de la ville de Paris qui investirait sur place, bon, c'est à fouiller. Je pense que l'ancien ministre des Finances pourra nous en dire plus sur la faisabilité de l'affaire. Et donc je lui passe la parole.
Oui, enfin, dans votre question, il y a deux dimensions. Il y a une dimension nationale et il y a une dimension locale. Bon, la dimension nationale, comme Henri Rouillet d'Orfeuille l'a dit, pour l'instant, on a développé dans le cadre de la loi sur l'épargne salariale, hein, l'épargne nationale, hein, qui comprend grosso modo 90% d'épargne normale, si je puis dire, qui cherche un revenu normal, et 10% d'épargne solidaire qui doit s'investir dans des entreprises solidaires. Alors, l'idée est esquissée dans la loi de faire la même chose au niveau régional. Hein, mais pour l'instant, ces outils régionaux n'existent pas. Donc ça, c'est une première réponse. Ceci dit, la ville de Paris non seulement soutient des associations, comme je l'ai dit, mais elle est tout à fait partie prenante d'une association dont vous avez entendu parler ce matin, qui s'appelle Paris Initiative Entreprise, hein, qui est la représentation territoriale, d'une part de France Initiative Réseau, donc qui fait des prêts d'honneur, et d'autre part de France Active, dont Denis de Menton vous parlera tout à l'heure. Et là, nous mettons de l'argent, hein, pour le fonctionnement, pour doter un fonds de garantie bancaire, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a le conseil régional, qui est très actif aussi dans le domaine de l'économie solidaire, et il faudra un jour, peut-être toi Henri, te tourner aussi vers le conseil régional, et je te conseille de le faire assez vite, ce serait bien. Et d'autre part, bon, la Caisse des dépôts et consignations, hein, est très active aussi en la matière, et des banques qui ne sont pas des banques tout à fait ordinaires, qui sont des banques mutualistes, qui apportent aussi leur concours. Et puis si vous avez de l'épargne solidaire qui vous démange, il y a les cigales, mais alors on vous en parlera tout à l'heure, où vous pourrez, si je puis dire, vous impliquer directement. Donc on n'en est pas au stade du grand emprunt ou du fonds d'épargne salariale parisien ou francilien, dont une partie serait consacrée à l'épargne solidaire, mais je crois que, comme Henri Rouillet d'Orfeuille a bien voulu le reconnaître, on est actif, plus actif que par le passé, mais on peut certainement aller plus loin et on discutera avec Finansol pour voir si on peut faire encore mieux.
Est-ce que ces deux réponses ont suscité d'autres questions? Oui.
Bonjour, je m'appelle Dalila Benhamed, je représente une association d'artistes indépendants. Je vais être très terre à terre et pas trop compliqué. J'aimerais savoir, vous redistribuez de l'argent aux uns, aux autres, normalement pour qu'il arrive jusqu'à nous. Eh bien, j'aimerais bien qu'on me donne la méthode pour que nous, on puisse arriver jusqu'à vous et pouvoir avoir justement cet argent dont vous nous parlez tant. C'est tout simple. Alors, comment on fait, monsieur, pour que mon association, elle arrive sur votre bureau et que vous lui dites, oui, le projet est intéressant pour ces jeunes, oui, c'est créatif d'emploi, oui, c'est hors norme, mais on donne quand même de l'argent.
Ok. Question claire. On prend deux questions, puis après on...
Encore une question, et puis après on...
Le monsieur là-haut, là.
Bonjour, Bruno Galarati, US 91. Les finances solidaires aident des personnes en difficulté, aident aux projets collectifs et autres. Ben, à première vue, il y a un souci quand même, c'est dans la mesure. C'est-à-dire, en fait, très souvent, on a des subventions qui sont des subventions sur objectifs, et quand on prend ces objectifs-là, il est très difficile de dire à des institutionnels qui attendent un résultat monétaire qu'on est dans le non-monétaire. Où en est-on de la réflexion d'un indicateur de plus-value sociale par rapport à notre intervention sur le terrain, s'il vous plaît?
Ok. Bon, on répond.
Vas-y.
Bon.
Alors, Je commence à répondre. Hein. Donc je réponds d'abord à madame. Hein. Nous sommes dans le domaine de l'économie solidaire. Hein. Et dans l'économie solidaire, il y a solidaire, mais il y a économie. Donc, si, je ne sais pas ce que fait votre association, mais vous pourrez, si votre association ne vend rien, pour être clair, hein, des services à la personne, des activités de différents types, elle n'est pas vraiment dans l'économie solidaire, mais elle peut quand même être subventionnée par la ville de Paris. Là, vous adressez un dossier de demande de subvention. Hein. Si ça touche un petit peu à l'économie, vous l'adressez à Monsieur Yayel, qui est devant, que vous voyez de dos, il va lever le bras. Voilà, il vous donnera sa carte de visite tout à l'heure. Hein, vous voyez, c'est s'il en a une. Il en a une. Bon. Donc, si vous êtes dans l'économie solidaire, hein, et si vous avez un projet, il faut avoir un projet, hein, un projet de développement, vous pouvez vous adresser encore à Monsieur Yayel, mais il vaut mieux aller directement au but, vous adresser à Paris Initiative Entreprise. Hein, et Denis de Menton va vous donner l'adresse lorsqu'il parlera dans un instant de France Active sur Paris. Hein. Là, on examine votre projet. Si on considère que ce projet est solidaire, ça j'ai pas de doute en vous regardant, mais économiquement viable aussi, hein, à ce moment-là, ça passe. Alors attendez, mais j'ai pas de doute non plus, je vous regarde, ça passe devant un comité d'engagement. Je vous explique comment ça marche concrètement. Donc vous avez autour de la table une douzaine de chefs d'entreprise, de banquiers, de bénévoles, de retraités qui regardent votre projet. S'ils disent ben, votre projet est sérieux, vous avez soit un prêt d'honneur, soit on se débrouille pour qu'une banque vous prête de l'argent avec une garantie. C'est-à-dire que la banque, elle est tranquille, on lui garantit que c'est un bon projet, donc pas de frais pour regarder ça. Et en plus, si jamais on se plante, mais ça peut arriver, hein, eh bien, par initiative entreprise, lui rembourse les deux tiers du prêt. Donc vous voyez qu'elle prend pas beaucoup de risques. Voilà la démarche pour vous répondre. Alors, quant au monsieur Dieu, dans la France d'en haut, hein, voilà, hein, voilà, vous posez une question un peu paradoxale que je vais évidemment laisser à Henri Rouillet-Dorfeuille parce qu'il a beaucoup plus le sens du paradoxe que moi. Si vous parlez d'économie solidaire en parlant de prestations non monétaires, vous n'êtes pas dans l'économie, vous êtes dans la solidarité, dans l'action culturelle, dans des domaines qui sont parfaitement recommandables. Hein. L'économie solidaire n'est pas toute la solidarité. Mais si vous faites du commerce équitable, vous faites du commerce, c'est de l'économie solidaire. Si vous montez un club de sport, bon, avec des cotisations et des aides aux gamins, c'est de l'économie solidaire. Donc, je ne peux pas répondre à votre question conceptuelle. Hein. Je dis simplement que si vous représentez une association qui a un projet, vous ne cherchez pas à gagner de l'argent, mais simplement à financer la vente, hein, de prestations solidaires dans des domaines les plus divers, à ce moment-là, je vous fais la même réponse qu'à la dame qui m'a interrogé avant. Mais peut-être sur la conceptualisation, Henri, je crois que tu es bien meilleur que moi là-dessus. Hein.
Non, je suis sûrement pas meilleur, mais c'est un sujet qui est très important, ne serait-ce qu'à travers notre label, puisqu'on doit garantir... Il faut pouvoir définir ce qu'on appelle solidaire dans l'économie. Donc nous, on a pris, on a dans notre label deux critères ou deux séries de critères. La transparence, c'est-à-dire la clarté du contrat entre le gestionnaire du produit financier et puis l'épargnant. Hein. Et deuxièmement, on a pris un critère en fait de réinsertion des personnes en difficulté. Ça, c'est notre premier gros sujet, en fait, c'est-à-dire qu'on considère comme solidaire une entreprise qui a été créée par des personnes en difficulté, ce qui est défini par la loi, ce sont des personnes qui sont attachées aux minima sociaux, ou qui, des entreprises qui ont recruté le tiers de leur personnel dans cette catégorie. Donc c'est absolument objectif. Maintenant, il y a d'autres manières, évidemment, d'être une entreprise solidaire que la réinsertion des personnes en difficulté. Il y a aller dans des lieux difficiles où ne va pas naturellement l'entrepreneuriat ou l'investissement. Il y a le logement et pas seulement le travail, etc. Donc on essaye d'être le plus objectif possible dans les indicateurs, de manière à pouvoir garantir très sérieusement aux épargnants que, effectivement, les produits sur lesquels ils mettent leur épargne les drainent vers des entreprises, c'est-à-dire des unités économiques. Je reviens sur ce que disait Christian Sauter. On n'est pas dans le domaine de l'associatif solidaire pur, on est dans le domaine de l'économie. Hein. On peut être dans l'associatif, faire des dons. C'est pas notre manière de travailler. Notre manière de travailler, c'est d'utiliser les outils économiques et le financement, les financements économiques. Voilà. Donc, en bout de chaîne, il y a en général des entreprises hein, de statut variable. Ça peut être des coopératives ou ce qu'on veut, mais c'est quand même des unités économiques. Voilà.
Alors, est-ce que je peux me permettre là d'intervenir pour dire que je suis quand même. Je suis quand même très. Je me présente, Daniel Cornet, FNARS Île-de-France. Je suis quand même très surprise d'entendre ces propos. Est-ce qu'on peut considérer que ce que vous appelez par économique, c'est uniquement du coup ce qu'on entend habituellement par l'économique, c'est-à-dire un système de vente d'un produit dans des critères marchands qui sont connus depuis X temps. Et est-ce que justement l'économie solidaire ne porte pas en elle une autre façon de concevoir l'échange qui est pas forcément monétaire et qui peut être non monétaire? Et ça, c'est un des critères que défend, je crois, défendre les acteurs de l'économie solidaire. Pour donner deux exemples concrets et pas être dans la conceptualisation, au niveau concret, il y a deux exemples qui à mon avis, sont quand même parlants. C'est les systèmes d'échange locaux. Les systèmes d'échange locaux, c'est vraiment de l'échange qui peut être dans un secteur économique parce que ça produit du service, mais ça produit du service avec d'autres types d'échanges non monétaires. Et puis, il y a un autre projet que je connais bien, qui sont les jardins d'insertion, qui fabriquent et qui produisent des légumes, donc qui permettent à des gens en insertion de se requalifier, mais qui offrent des légumes, donc qui permettent à des familles en difficulté d'avoir des légumes dans un échange de dons contre dons, et qui ne sont pas forcément monétaires. Donc est-ce que ces structures-là ne rentrent pas du tout dans le cadre de votre façon de concevoir l'aide financière à des entreprises? Moi, c'est ça qui me pose question.
Bon. Je dis peut-être un mot, Henri, hein, sur ce point. Bon. Moi, j'ai essayé, madame, mais c'est une question très importante que vous posez, de faire la distinction entre marchands à but lucratif, c'est-à-dire l'économie capitaliste, hein, et marchands à but non lucratif. Bon, vous prenez l'exemple des jardins de cocagne. Bon, l'essentiel de l'activité des jardins de cocagne, c'est que des personnes, j'en fais partie, achètent chaque semaine un panier de légumes qui est cultivé par des personnes qui sont en difficulté, qui sont encadrées. C'est un truc formidable. C'est de l'économie parce qu'il y a production et il y a une sorte, c'est une sorte de vente. Bon, mais le but des jardins de cocaïne, c'est pas de gagner de l'argent. Le but des jardins de cocaïne, c'est de permettre d'avoir les moyens financiers pour que ces personnes en sortent. Alors, vous avez cité les systèmes d'échange locaux, qui, par parenthèse, sont assez peu développés sur Paris. Bon, ça, je veux dire, c'est de l'économie du troc. Hein. Mais c'est un cas tout à fait particulier. Mais je vous accorde que ça, on peut rentrer le troc dans l'économie solidaire. C'est l'économie qui existait avant le capitalisme et même avant le marché. Mais c'est quand même très très marginal parce qu'on n'a pas forcément la personne qui échange la contrepartie dont vous avez besoin. Je pense que la distinction importante, c'est la solidarité à caractère économique, mais non business. Ça, d'un côté, et puis il y a une solidarité qui n'a aucun caractère économique. Bon, je veux dire que, mais qui est tout à fait aussi recommandable. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, mais c'est autre chose. Et ça relève de subventions. Par exemple, une collectivité territoriale va subventionner parce qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en termes marchands. Il y aura un retour non monétaire dont parlait monsieur tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà.
Non, mais je suis d'accord. Enfin, j'insiste aussi sur une chose, c'est qu'il y a une grande diversité de formes. C'est-à-dire que vous avez des formules qui sont assez classiques et puis d'autres qui sont très originales, avec effectivement le problème des selles qui est du côté de l'original par rapport à un mécanisme économique classique. Simplement, il y a une sorte de contrat qui se passe puisqu'on est dans des circuits financiers entre des épargnants et puis des investisseurs, en fait. Enfin, oui, entre des épargnants et des entreprenants. Il faut que ce contrat puisse être respecté. Et le contrat, c'est pas le don gracieux, c'est effectivement le retour sur investissement aux conditions sociales, solidaires, environnementales, etc., qui sont définies au départ. Hein, je crois que c'est ça. Voilà.
Pardon ? Où est-ce qu'elle est la question ? Non, non, mais attendez. Il y a une deuxième qui tend hein, dans la session.
Non, c'est dommage, c'est une question que je voulais vous poser, monsieur Sauter.
C'est pas pour les autres. Hein.
Non, non, c'est très sympathique pour les autres. Je voulais juste savoir si Paris réfléchissait à un système particulier ou réfléchirait à un système particulier de financement des sociétés coopératives d'intérêt collectif et à une position politique de la ville de Paris sur éventuellement son implication dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
La réponse est oui. Hein. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est un peu l'équivalent des SCOP dans le domaine tertiaire. Hein. Non. Hein. Bon, c'est une nouvelle forme juridique qui a été inventée il y a un an ou deux. Hein. Nous, on est prêts à aider le développement. Nous aidons des projets. Si vous avez des projets de SCIC, vous vous adressez à Michel Gaillel. Hein. C'est sympa. Ok.
C'est le monsieur qui est là devant.
J'ai c'est vu. Le monsieur qui est là et vous avez de la chance, vous le voyez de profil. Bon, il y avait un monsieur, il y avait quelqu'un tout en haut, non ? Non, c'est bon ? Alors, ok, excusez-moi de partir, mais d'abord il faut être sympa pour les autres, et puis on se reverra probablement au mois d'octobre pour sur des projets concrets. Hein. Mais sachez que Paris ne s'intéresse pas à votre argent, hein, Paris s'intéresse à vous.
La parole à M. Patrice Bouquet-Deschaux, membre du directoire de la NEF.
Ça marche. Ça marche plus ou moins. Hein. Ça dépend qui parle, apparemment. Oui, bonjour. Donc, je suis effectivement l'un des responsables de la NEF. La NEF, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. Je crois que dans le débat qui nous anime en ce moment, c'est pas une appellation neutre. Ça veut certainement dire quelque chose. En tout cas, je vous le confirme, ça veut dire quelque chose. La NEF, elle se positionne justement comme une initiative, on pourrait dire citoyenne maintenant, hein, c'est le terme qui est employé beaucoup, c'est-à-dire une initiative qui repose uniquement, finalement, sur la force et l'énergie, l'enthousiasme des personnes qui ont envie de se lier à ce projet-là. Et ce projet, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que l'argent puisse être un outil de construction social et environnemental, c'est-à-dire un moyen, un effet de levier qui fasse que des projets qui très souvent ont du mal à démarrer, ça a été dit tout à l'heure, puissent démarrer quand même en faisant fi de certaines réticences, pour pas dire de certaines oppositions du monde bancaire traditionnel. Et la NEF s'est investie dans ce projet-là depuis 25 ans. Donc c'est dire aussi qu'il y a 25 ans, c'était faire figure de pionnier que de s'interroger sur ces mécanismes-là, de se dire on est un groupe de personnes et on fait le pari qu'en mettant nos moyens ensemble, quels qu'ils soient, c'est-à-dire un peu d'argent qu'on a au fond de la poche, un peu d'argent sur un livret de caisse d'épargne ou un peu d'argent sur un compte chèque, on va pouvoir ensemble, en les mettant à disposition d'un porteur de projet, permettre à ce porteur de projet de démarrer. Et on voit bien à travers cet exemple que on a affaire en fait à une affaire d'homme, c'est pas une affaire d'argent au fond. Il s'agit simplement de savoir si on peut réunir de bonnes volontés et des énergies qui vont s'employer à aider quelqu'un d'autre à démarrer. D'où le vocable fraternel. Évidemment, maintenant, ça paraît éventuellement un peu désuet, d'ailleurs, ce mot fraternel. On entend beaucoup solidaire. Pourquoi pas, les mots évoluent. Mais ce qu'il y a derrière ce mot, en fait, c'est bien la dimension humaine, c'est-à-dire cette capacité des uns à se préoccuper de ce qui arrive aux autres. Et donc là, on se situe aussi, par rapport au débat qui vient d'avoir lieu, on se situe dans le champ économique, c'est vrai, puisque c'est nouvelle économie fraternelle. Mais là encore, je ne crois pas qu'il faille opposer une vision économique au sens libéral avec une économie plus de dons. Hein. Chacun doit pouvoir choisir, en fait, ce qu'il veut faire avec son argent. Et peut-être ce qui n'a pas été précisé suffisamment, en tout cas j'ai envie de le faire, c'est de se dire, quand on a affaire à de l'argent, ben on est forcément en face de la question, est-ce que cet argent, je suis dans la disposition de le donner, c'est-à-dire c'est de l'argent qui sort de ma poche et qui va dans la poche de quelqu'un d'autre, et c'est fini, je n'attends pas de retour. Est-ce que c'est de l'argent que je veux simplement déposer pour un certain temps, en sachant que la condition, c'est que j'ai confiance que cet argent me revienne un jour, avec ou sans intérêt. Hein. Et puis, ou bien, est-ce qu'on a encore affaire à une autre catégorie d'argent, qui est ce qu'on appellerait plutôt l'argent d'achat ou l'argent de transaction, qui me permet, moyennant donc le versement de cet argent, d'obtenir en échange un produit ou un service. J'ai l'impression que peut-être quand on parle d'économie solidaire, on aurait besoin de s'éclaircir un petit peu sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot argent. Et finalement, l'argent, on sait qu'il peut prendre plusieurs couleurs. En tout cas, il a ses trois couleurs principales, si on peut dire. Et il faut bien savoir ce qu'on a mis, ce qui peut éviter les ambiguïtés ensuite de savoir ce qu'on attend de l'autre. Et quand on entendait l'exemple tout à l'heure des associations, effectivement, il faut savoir si l'association, au fond, ce qu'elle attend, ce sont des subventions ou des dons ou des cotisations. Et ça, c'est de l'argent qui vient et qui sert aux dépenses directement de l'association. Ou bien, est-ce que c'est de l'argent de crédit, donc qui vient d'épargnants, avec cette grande condition de savoir que cet argent doit revenir une fois qu'il a été utilisé à investir quelque chose, que ce soit un bâtiment ou du matériel ou quelque chose comme ça, eh bien cet argent doit petit à petit revenir ensuite vers l'épargnant. C'est ça la condition du crédit, épargne-crédit. Hein. Ou bien est-ce que cette association, elle vend des services et en fait contre-monnaie seulement est trébuchante, comme on dit. Et là, je crois qu'il faut bien situer les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais moi, il en quoi. D'association pendant 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, ça marchait tellement bien, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'argent qui circulait, qui venait se mettre à disposition de l'association et qui repartait sous forme de financement de projet, que finalement, on aurait pu dire, bah, quelque part, c'est une mini-banque. Oui, mais la réglementation bancaire ne le voyait pas comme ça. Et il a fallu, à un moment donné, surtout que la loi bancaire a changé en 84, il a fallu prendre des dispositions pour dire soit on abandonne ce travail-là, soit on passe à l'étape suivante, qui est l'étape professionnelle. Et je vous raccourcis l'histoire, mais la NEF donc fonctionne depuis 15 ans maintenant sous la forme d'un établissement de crédit avec un statut très officiel d'établissement de crédit, donc avec un agrément de la Banque de France pour faire des crédits, donc pour soutenir des projets, et l'agrément dit des projets de nature professionnelle ou associative qui sont dans des domaines qui aussi à l'époque pouvaient sembler très pionniers ou très marginaux à la limite, puisque la NEF a commencé par s'intéresser à tout ce qui était projet lié à l'environnement, par exemple l'agriculture bio il y a 25 ans, ça faisait rire tout le monde, et ça n'intéressait pas beaucoup de banquiers. Bon, maintenant on sent que c'est quelque chose qui est devenu quelque part un créneau porteur. Idem pour la notion de développement durable, hein, qui dans laquelle il y a cette agriculture bio. On n'entend plus que ça aujourd'hui, vous savez qu'on sort d'une semaine du développement durable, et ben on dit tant mieux, mais là encore, il y a 25 ans, on faisait difficilement recette en parlant de ça.
Et puis, le deuxième grand secteur d'intervention de l'ANEF, eh bien, c'est le secteur, on peut dire, donc, qu'on appellera aujourd'hui le développement solidaire, local, de proximité, d'aide aux nouveaux, aux projets innovants, comme tout ce qui peut ressortir des SCOP ou des SCIC ou des coopératives ou du monde associatif, pourvu qu'il y ait quelque part dans ces projets une dimension humaine qui puisse nous interpeller. Et interpeller nos épargnants et leur donner envie de soutenir ces projets. Alors on parle de commerce équitable, on parle de création de petites entreprises par des chômeurs, on parle de développement de projets en zone rurale, etc., etc. On parle de logement très social pour des familles qui sont en voie d'exclusion et qui ont besoin d'un logement, etc. Le tout toujours sur base de mobilisation collective, soit par le biais d'associations, soit par le biais de personnes qui entourent le projet et qui lui apportent la force morale, pour ne pas dire la garantie financière, puisqu'on on est arrivé par ce biais-là à financer l'infinançable, c'est-à-dire permettre qu'un projet qui n'a aucune raison d'aboutir objectivement puisse naître, parce qu'un groupe de personnes va se déclarer solidaire de ce projet et apporter chacun une petite partie de la garantie sous forme de petite caution et faire en sorte que, en globalisant, on puisse mutualiser le risque et rendre le projet finançable. Ça nous a permis en 15 ans de financer des projets qui n'auraient jamais pu voir le jour autrement. Et là, on voit bien que toujours ce qui est moteur, c'est pas l'argent lui-même, c'est les personnes qui sont derrière l'argent et qui se servent de cet argent comme d'un outil pour avancer, pour faire progresser les idées, pour permettre la réalisation de projets qui semblent dignes d'intérêt. Voilà donc, et puis bien sûr ce qu'on appelle le domaine culturel, hein, c'est-à-dire là encore un peu tout ce qui bouge et qui fait que les idées dans la société ou la manière de s'exprimer, de rechercher, que ce soit au niveau culturel, artistique, éducatif, tout ça, que tout ça puisse venir enrichir la société en tant que telle. Et tout ça nous paraît très important de pouvoir permettre que ce genre de projets qui sont pas facilement finançables parfois, on a entendu parler de projets artistiques tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas évident de trouver le fonctionnement économique d'un projet artistique qui va permettre de dire on peut faire un crédit. Voilà. Donc ça, c'est les domaines dans lesquels l'ANEF s'investit depuis 25 ans. En face de ça, eh bien, aujourd'hui, elle a presque 8000 épargnants sur tout le territoire français. Et l'Île-de-France, Paris-Île-de-France n'a pas à rougir, puisque il y a à peu près 1700-1800 épargnants sur la région. Et ce mouvement, donc, s'accroît tous les mois de 150 nouveaux épargnants sur l'ensemble de la France. Donc on voit par là que, effectivement, ça correspond un besoin, une attente, et quelque part, je vais dire, ça va peut-être vous sembler curieux, mais si ça continue comme ça, on va être vraiment en recherche maintenant de projets à soutenir. Donc ça a l'air provocateur ce que je dis, mais je le dis parce que c'est vrai. On a maintenant une abondance de ressources collectées qui fait qu'on peut vraiment accueillir largement les porteurs de projets. Mais évidemment, il faut que les projets en question, on puisse les mener jusqu'au bout ensemble. C'est-à-dire qu'on puisse trouver les moyens, que le projet lui-même tienne suffisamment debout, qu'on puisse voir avec les acteurs comment le conforter. Hein. Alors, on est en relation, par exemple, sur Paris, avec, bien sûr, Paris Initiative Entreprise, qui a été cité par M. Sauter, mais aussi avec toutes les boutiques de gestion. Et évidemment avec France Active d'un autre côté au niveau de la garantie, avec les Cigales, avec Garrigue, la société de capital risque solidaire, etc. Enfin bien d'autres acteurs qui permettent de voir que le projet en question puisse globalement trouver les moyens de sa réussite et donc qu'on puisse le soutenir nous de notre côté par un crédit. Voilà, donc vous voyez cette mobilisation d'épargnants, on constate tous les jours que cette mobilisation, elle repose uniquement sur les personnes elles-mêmes. Et là, je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit précédemment, et qui a été rappelé par Henri Rouillet-Lafeuille, on est vraiment dans une dynamique, je dirais, de collectif, d'associatif, mais qui part de personnes individuelles, comme vous et moi. C'est l'engagement individuel qui permet en mutualisant les forces de faire des choses qui ne pourraient pas se faire autrement. Et finalement, c'est à ça qu'on demeure attentif. On le fait maintenant à l'intérieur d'un établissement financier qui a donc une rigueur de gestion
qui doit être absolue, hein, puisqu'il faut garantir la sécurité des épargnants, et je vous garantis que la Banque de France ne rigole pas avec ça, et c'est normal, quelque part, puisqu'on a dit à l'épargnant, on lui affirme que l'argent qu'il dépose, on pourra le lui rendre, mais en même temps, on essaye de le faire en gardant cet état d'esprit, cette motivation, et en s'appuyant sur les valeurs que sont l'éthique, c'est-à-dire on finance pas n'importe quoi, on le fait dans la transparence, hein, c'est-à-dire qu'on publie, vous voyez sur le stand de l'AMF qui est là, il y a les rapports annuels, dans chaque rapport annuel de l'AMF vous trouverez la liste complète et la présentation de chaque projet qui a été soutenu pendant l'année, avec même les coordonnées des gens qui ont été aidés, donc ça c'est une façon pour l'épargnant de se relier à ce qu'on fait avec son argent. Et puis la troisième valeur évidemment c'est la solidarité. Et elle s'exprime à l'intérieur de cet établissement de crédit, si je peux dire, par sa forme, qui est une forme coopérative. Et ça n'est pas un hasard non plus, puisque c'est dans la coopérative que se font les grands choix d'orientation de l'action. Donc la coopérative, ça veut dire en clair, un homme, c'est une voix en Assemblée Générale, c'est pas combien je détiens de capital, donc combien j'ai de voix à faire valoir. Voilà, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr. Merci.
Merci. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Yves Barnou, président de l'association territoriale des Cigales Île-de-France.
Bonjour. Tout d'abord, ce mot Cigale est un acronyme qui veut dire Club d'investisseurs pour la gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Les clubs Cigales ont été créés le 14 juillet 1983. Alors je me permets une parenthèse. Le 20 et le 21 septembre, dans cette même salle, nous fêterons nos 20 ans. Et nous vous y invitons. Donc, ce sont des clubs de 5 à 20 personnes qui, sur un lieu, se regroupent pour mettre une part de leur épargne dans un pot commun. Ce qui nous relie les uns aux autres, c'est que nous avons une charte. Je vais vous en donner quelques lectures de quelques phrases, je ne vais pas être trop long, qui disent que c'est un outil qui, par l'engagement de ses membres, se place résolument au cœur de l'activité économique et financière pour y développer des pratiques alternatives et solidaires de proximité, c'est-à-dire maîtriser l'utilisation de son épargne, lui donner du sens, gérer l'épargne autrement, de manière transparente, collective et démocratique, où chacun est à la fois responsable et solidaire. Donner un sens économique et une pratique à la notion de proximité, rapprocher l'épargne de l'investissement pour un développement local durable, développer une pratique différente d'utilisation du capital, en faire un instrument d'accompagnement et d'appui aux entreprises cigalées dans un souci de réciprocité entre entrepreneurs et épargnants, donner la priorité à des entrepreneurs dont les buts, au-delà du nécessaire aspect financier, sont sociaux, culturels, écologiques, c'est-à-dire respectueux de la place de l'homme, c'est-à-dire de l'humain, les femmes aussi, ça marche, dans son environnement. Je voudrais préciser, parce que souvent c'est quelque chose que même des amis proches, voire des partenaires, nous reprochent, les Cigales sont soucieuses d'efficacité économique et de réussite financière. Elles sont pragmatiques, elles sont averties des risques et des difficultés dans la création et développement d'une entreprise, réalistes dans leur attente et rigoureuses dans leur approche, elles cherchent avant tout la pérennité des entreprises qu'elles financent. Souvent on nous a reproché, et je pense à tort, d'être des gens qui faisions des dons. Nous ne faisons pas du don. Nous investissons, nous faisons du capital risque, nous investissons nos économies mises collectivement dans un pot commun, et nous les investissons collectivement dans des petites entreprises en création ou en développement. Alors, ceci étant dit, la durée de vie d'un club est limitée à 5 ans. Parce que nous utilisons la loi qui est la loi sur le boursicotage. Mais on l'utilise en la détournant à des fins sociales et solidaires. Donc un club, c'est une indivision volontaire qui va chaque cigalier va mettre une épargne faible, hein, 8 à 450 euros par mois pendant 5 ans, dans ce pot commun, pour ensuite investir dans des petites entreprises après avoir reçu le porteur, après avoir discuté avec lui, après l'avoir suivi, l'avoir épaulé, car nous avons constaté que une chance de réussite des entreprises, c'était l'entourage de l'entreprise. Donc nous allons investir uniquement, dans des entreprises collectives, c'est-à-dire des SARL, des SA, des SCOP, des SIC, et depuis quelques années, 2 ans je crois, nous pouvons aussi faire des apports en capital, des apports avec droit de reprise aux associations. Alors ça, c'est assez récent, il y a peu d'exemples encore, on a quelques associations qui ont été aidées, mais pour l'instant, c'est encore assez rare. Les cigales ont été créées sur l'idée et sur le constat que pour créer une entreprise, la plupart du temps, l'entrepreneur manquait de fonds propres. Donc, à l'inverse de nos amis de la Nef, nous ne faisons pas du prêt, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'apport en capital, ce qui fait que dans bien des cas, nous nous trouverons en partenariat avec d'autres entreprises de l'économie solidaire, dont la Nef, qui elle, donc, fait du prêt. Nos apports sont des apports minimes, chaque cigale n'investissant qu'une somme faible, entre 800 et à 4600 euros. Toutefois, plusieurs clubs peuvent investir dans la même entreprise, ce qui fait démultiplier les possibilités d'intervention. Il est à noter que dans un souci de laisser aux porteurs de projet toute son autonomie, nous sommes toujours minoritaires au capital, c'est-à-dire que nous ne dépassons jamais la minorité de blocage qui est de 25% dans une SARL et de 33% dans une ESA. Nous pouvons investir aussi, quand on est au capital, au compte courant associé, ce qui permet de compléter un apport. Ensuite, eh bien, comme nous sommes au capital de l'entreprise, nous avons tout intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, nous assurons un suivi, un ou deux cigaliers suivent l'entreprise, et comme nous nous réunissons très régulièrement, la personne qui suit l'entreprise rapporte régulièrement au club ce qui s'y est dit. Les cigales ne sont pas toutes seules. La preuve, c'est que ce soir à cette table, cet après-midi, nous sommes plusieurs, et que, en fait, ce sont des partenaires. Nous avons comme ça tout un réseau de partenaires. Alors, je dirais, il y a les partenaires de la proximité directe, que sont, par exemple, les entreprises, enfin les organismes que nous avons participé, dont nous avons participé à la création, tels que Garrigue, tels que FICEA, et tels que la Bourse au financement solidaire, puisque les CIAL ont été au départ de ces trois structures. Nous avons d'autres qui sont, je dirais, en deuxième partenariat, enfin, même si c'est un partenariat très proche, tels que nos amis de la Nef ou d'autres qui sont ici. Et puis, nous avons aussi, chaque cigalier, nous avons aussi notre carnet d'adresse. Donc tout ça va concourir à conforter l'entreprise que nous aidons à créer. L'objectif des membres des clubs cigales c'est aussi d'aider ou de participer plutôt à une économie durable. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous investissions dans des projets écologiques, dans le bio, mais aussi nous investissons dans des entreprises d'insertion. Et je crois que c'est la diversité de nos investissements qui fait notre richesse. Alors, je ne sais pas si je vais beaucoup plus développer. Je pense qu'il y aura des questions et c'est plus dynamique de répondre à des questions que se posent les gens. De toute façon, on a le stand qui est là à côté et on est prêt à vous donner de la documentation, à vous répondre. Et si certains d'entre vous souhaitent créer une cigale dans leur coin, nous sommes une structure de bénévoles. Nous avons sur l'Île-de-France qu'une seule salariée. Nous sommes tous bénévoles, mais nous sommes des bénévoles militants et des bénévoles mobiles. Donc nous pouvons nous déplacer, nous pouvons aller dans vos quartiers pour faire connaître l'épargne solidaire, l'économie solidaire, et vous aider ou aider ceux que vous connaissez à créer des clubs cigales, ou bien à aider des entreprises que vous avez repérées pour qu'elles puissent se développer. Voilà, je vous remercie.
Merci, Yves Barnou.
Bien, donc, je vais passer la parole à Denis de Menton, chargé de mission à l'association Fonds France Active.
Voilà, donc si j'ai bien compris, on va être bref, puisque chaque mot que je dirai, ce sera un mot de moins pour Marcel Lipsman avant la fin de la table ronde. Donc,
il y a le temps additionnel.
Je vais être assez factuel et puis essayer d'indiquer quand même un petit peu l'esprit dans lequel on travaille. France Active, c'est une association qui est nationale et qui fédère en France ce qu'on appelle nous des fonds territoriaux. Il y en a 34. Donc à Paris, c'est Christian Sauter le disait, Paris Initiative Entreprise, avec qui on travaille depuis plusieurs années et qui sont nos relais sur le territoire. Donc association nationale dans laquelle on retrouve en fait comme membres fondateurs des banques, notamment de l'économie sociale. On retrouve la Caisse des dépôts qui assure derrière nous une sécurité financière à l'ensemble des systèmes financiers qu'on peut monter. Et puis des acteurs de l'économie sociale comme la Fondation Massif et des organisations caritatives. Et on a une quinzaine d'années d'existence. Alors, en quelques mots, les projets qu'on peut soutenir précisément, ce sont d'un côté tous les projets de création d'entreprises qui sont portés par des personnes en situation économique précaire, grosso modo des personnes qui sont en difficulté d'insertion dans le monde du travail et qui ont un projet d'entreprise. Donc là, on est, je dirais, sur de la création d'entreprises classiques, de TPE sous forme SARL ou unipersonnelle, peu importe. La dimension solidaire, elle vient du fait qu'effectivement, on a des gens qui, par leur situation et par leur situation financière notamment, ont une difficulté d'accès au crédit bancaire. Et on assure auprès d'elles un accompagnement dans la recherche de crédit bancaire avec des systèmes de garantie, je préciserai tout à l'heure. Ça, c'est un des champs sur lequel on travaille depuis le démarrage. L'autre secteur, grand secteur sur lequel on travaille, c'est celui, et ce depuis l'origine, celui de l'insertion par l'économique, donc toutes les structures associatives ou sous statut commercial, entreprises d'insertion, associations intermédiaires, régies de quartier, donc qui ont un pied dans l'économique, une activité économique affirmée par la vente de biens et de services, et puis, dans le fondement même du projet, le souhait et le professionnalisme pour réinsérer des personnes, là, pour le coup, très éloignées du monde du travail. Donc ça, c'est historiquement le deuxième grand champ sur lequel on intervient. Et puis depuis quelques années maintenant, un peu par extension, et puis au fur et à mesure que se développe la réflexion sur l'économie solidaire, au sens un peu plus large que ce qu'on faisait à l'origine, on peut intervenir aujourd'hui sur toute structure très souvent associative, mais enfin sans exclusive. On pourrait intervenir sur des SIC, par exemple. Hein, je crois qu'on est en train de travailler sur 2 ou 3 projets. Toute initiative qui a une dimension économique, donc peut-être pour répondre aux interrogations de Daniel Cornet tout à l'heure, les 2 exemples qu'elle donnait très clairement ne peuvent pas rentrer dans le champ de ce qu'on fait, ce qui n'est pas du tout un jugement de valeur sur leur intérêt, mais on n'est pas dans le secteur économique au sens où, au moins pour un minimum du chiffre d'affaires ou du compte de résultat, il y a vente de prestations ou de biens. On s'est mis une limite hein, sur cette dimension économique. On peut aller relativement loin puisque pour nous, on considère comme ayant un pied dans l'activité économique toute structure pour laquelle 30% de son compte de résultat ou de son budget, si c'est une association, 30% provient de la vente de prestations, y compris pour des clients publics d'ailleurs. Hein. Donc on n'est pas forcément dans l'économie marchande au sens classique du terme. Voilà. Alors, autre critère qui fait qu'un projet rentre est susceptible d'avoir une de nos interventions, il faut qu'il y ait création d'emplois et par priorité création d'emplois pour des personnes en situation difficile par rapport à l'emploi. Donc là aussi un autre critère qui va faire qu'un projet est finançable par nos interventions. Voilà, alors ça fait quand même rentrer beaucoup de choses dans notre champ d'intervention potentiel. Les outils qu'on utilise maintenant, je vais essayer de vous donner très rapidement, sans rentrer dans les détails techniques, il y a un site, hein, franceactif.org, sur lequel vous avez l'ensemble des caractéristiques des outils financiers. Et puis pour Paris, vous pouvez vous adresser directement à Paris Initiative Entreprise, dont on a une représentante ici, qui pourra détailler les choses. Mais grosso modo, on a 2 types d'outils. Le premier, c'est un outil qui est le premier qu'on a créé, qui est un outil de garantie sur emprunt bancaire. Donc là, l'idée, c'est effectivement, en même temps qu'on apporte une caution, donc on sécurise le banquier sur des projets qu'il ne veut pas voir ou qu'il a du mal à lire correctement, parce qu'ils ont des dimensions qui dépassent son savoir-faire financier, ou parce que ce sont des projets qui ont peu de fonds propres au démarrage. Quand même un cas assez fréquent dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on lui apporte ce qu'on appelle notre expertise et en l'assurant par un engagement financier qu'on a expertisé le projet et que d'après nous, il semble viable économiquement avec la part de risque habituelle mais pas anormale que tout banquier a dans un financement de projet. Donc ça veut dire qu'on lie très fortement notre intervention en ingénierie financière, pour parler un peu pompeusement, hein, quand on regarde un projet, nous on va essayer de le conseiller sur la meilleure architecture de financement extérieur qu'il va pouvoir aller chercher. On essaye d'agglomérer les différentes solutions qui existent et on essaye d'intervenir sur ce point-là financier, mais toujours en lien avec les réseaux d'accompagnement qui eux vont faire ce que nous on ne sait pas faire parce que c'est pas notre métier, ce qu'on ne doit pas faire, qui est plus l'accompagnement des personnes dans leur projet ou l'accompagnement technique sur les différentes dimensions techniques du projet. Donc toujours une intervention financière mais qui est jamais déconnectée d'un réseau d'accompagnement quand il existe ou des structures d'accompagnement qui peuvent sécuriser en amont le projet et assister les porteurs dans leur démarche avant financement et après financement. Donc, outil de garantie qui nous permet de travailler avec toutes les banques. Alors, on a beaucoup parlé du secteur bancaire mutualiste coopératif, donc qui est effectivement le secteur avec lequel on travaille majoritairement. Ceci dit, on ne s'interdit absolument pas de travailler avec n'importe quelle banque qui aurait la volonté de financer un projet. Pour nous, il y a une logique aussi d'intégration des projets au secteur économique plus classique. Deuxième type d'outil, alors là il est peut-être plus important, plus appétissant pour le secteur de l'économie solidaire, ce sont des outils d'apport en fonds propres. Alors, apport en fonds propres ou plus précisément quasi-fonds propres, hein, puisque quand on intervient avec l'un de ces outils, on demande toujours à ce que, in fine, c'est-à-dire au bout de 5 ans, on puisse ressortir, c'est-à-dire qu'il y ait un remboursement. Hein. Pourquoi ils sont différents d'un prêt? C'est parce que ils sont apportés à l'entreprise à des taux qui sont très franchement intéressants pour une période allant jusqu'à 5 ans et de manière stable. C'est-à-dire que le remboursement qu'on demande intervient in fine et laisse 5 ans à l'initiative pour se stabiliser, trouver son équilibre économique et commencer à dégager la ressource pour rembourser. Donc on a là un effet levier supplémentaire par rapport à l'intervention bancaire, c'est-à-dire que dans un bilan de départ d'une initiative, on a des ressources qui peuvent être considérées comme des ressources stables, en tout cas plus stables qu'un prêt à court terme ou même à moyen terme. Alors, l'intérêt de ces outils d'apport en fonds propres, bon, je le disais, c'est leur taux d'intérêt. On a des interventions à 2% en l'an. Quand on intervient avec la société d'investissement France Active, on peut intervenir en capital, toujours de manière minoritaire, puis apporter au fur et à mesure du développement de l'entreprise du compte courant d'associés, qui est toujours plus stable et plus intéressant que de l'endettement pur. L'autre caractéristique de l'ensemble de ces outils-là, c'est aussi l'origine de la ressource. C'est-à-dire qu'en fait, on a trois formes d'intervention en fonds propres. Je le disais, la CIFAC, une société d'investissement, le fonds commun de placement insertion emploi, donc là qui est à la fois un outil d'apport en fonds propres sur les structures, mais qui est aussi un outil d'épargne. Donc l'argent qu'on va apporter au projet est issu de systèmes d'épargne, et notamment depuis peu on développe l'épargne salariale, l'intervention de l'épargne salariale sur cet outil-là. Et l'outil de garantie lui-même, ce sont des fonds de garantie territoriaux dans lesquels on fait intervenir un peu de ressources privées. On a quelques entreprises ou banques qui mettent plutôt dans une logique de mécénat un peu d'argent sur ces fonds de garantie, et puis les collectivités territoriales. Donc ce qui nous permet, alors pour le fonds de garantie parisien, Christian Sauter le disait tout à l'heure, qui a été constitué il y a trois ans, un peu plus de trois ans, on a une intervention de la ville de Paris, du département de Paris pour être plus précis, une intervention du conseil régional, et puis autour des interventions de plusieurs banques notamment, et de quelques entreprises ou fondations. Donc en fait, on essaye, nous, avec notre technicité d'ingénierie financière, de faire converger sur des projets des ressources d'origine différente. Donc des ressources militantes par l'épargne solidaire, des ressources publiques, notamment d'origine collectivité territoriale, parce que c'est aussi un ancrage de ces initiatives dans leur environnement. Et puis des ressources là purement issues du privé, sur la société d'investissement France Active par exemple, ce sont des grandes entreprises ou des grands groupes, pas forcément de l'économie sociale, qui ont mis de l'argent dans cette société, souvent dans une logique de mécénat. Voilà, donc c'est un petit peu cette architecture-là qu'on essaye de faire converger sur les initiatives qui ont, au-delà d'une logique économique au moins d'équilibre, une vocation sociale, avec un regard particulier sur le retour à l'emploi de personnes qui sont exclues du marché de l'emploi. J'ai à peu près terminé sur la description. Il y avait des questions tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut venir chercher ces financements? Là, c'est très simple. Il y a sur Paris un organisme avec une équipe technique qui reçoit les porteurs de projets et éventuellement qui renvoie et qui essaye de travailler en synergie avec les autres réseaux d'accompagnement qui vont permettre de sécuriser le projet, de travailler un certain nombre de questions en amont des interventions financières. Et puis le déclenchement du financement lui-même, une fois que le dossier a été monté et que l'architecture financière a été déterminée, ça passe effectivement devant un comité d'engagement dans lequel on retrouve des professionnels du secteur. On a notamment un président d'entreprise d'insertion, on a l'URSCOP qui fait partie du comité d'engagement, on a quelques chefs d'entreprise plus classiques, des banquiers, des experts comptables, et là on va essayer de déterminer si il est raisonnable d'intervenir dans le projet. Donc il y a des projets qui passent pas. Voilà. Et je vais quand même laisser un petit temps de parole à Marcel Hipsmann, sauf s'il y a des questions.
On va passer la parole à Marcel Hipsmann de la Bourse au financement solidaire.
Bon, je vais d'abord remercier mon voisin parce qu'effectivement il m'a laissé quelques minutes, surtout si on veut laisser un large espace au débat, sachant que c'est à 16h30 que la séance se termine. Mais je sais qu'il y a un atelier qui suit et j'ai deux de mes collègues qui sont ici présents, Julia Rouilla et Amandine Albizetti, et qui pourront compléter ce que je viens de dire
ce que je vais dire, ou j'espère pouvoir dire, dans ces ateliers. Par ailleurs, et je le signale tout de suite, on a une petite brochure qui est disponible, enfin dépliant plus exactement, Bourse solidaire, qui est vert, donc il se distingue assez facilement. Et bien évidemment, on a un site qui est www.boursesolidaires.org. Alors, juste avant de venir ici, et par curiosité, j'ai cliqué sur le mot bourse. Et j'ai vu aussitôt apparaître une quinzaine de rubriques qui toutes parlaient de bourse et de marché financier. Alors, effectivement, c'est une question qu'on a déjà posée. Pourquoi bourse au financement solidaire? Alors, j'ai poussé un petit peu plus loin et j'ai cliqué le mot bourse du travail. Et j'ai lu, la bourse du travail a été créée par des militants ouvriers qui ont choisi ce nom par opposition à la bourse des valeurs. Alors, je crois que ça situe un petit peu notre démarche. Non pas que nous soyons hostiles aux valeurs, mais ce n'est pas les mêmes valeurs dont il s'agit. Et en effet, la bourse au financement solidaire est née d'une réflexion menée en commun par un certain nombre de financeurs solidaires ou d'organismes impliqués dans la promotion des finances solidaires, et qui d'ailleurs sont tous autour, qui sont tous à cette table, et il y en a un certain nombre qui sont dans la salle. Et en fait, ces financeurs regroupent, ils sont une douzaine, je ne vais pas tous les citer, regroupent l'essentiel, ou tout au moins une très large fraction, des intervenants dans le domaine de la finance solidaire. Et le but de cette bourse, c'est de créer effectivement un espace d'échange, de mise en relation par le biais d'Internet des porteurs, des financeurs et des accompagnateurs de projets solidaires. Alors je crois que ce qui inspire cette initiative, c'est évidemment d'aider les porteurs de projets, et notamment les porteurs de projets solidaires, groupés autour d'initiatives collectives, dans cette course d'obstacles que représente la création d'entreprises. C'est en même temps d'offrir aux financeurs la possibilité d'avoir dans un espace facilement accessible des projets qui seront susceptibles de financer. Alors, ces projets, je vous donnerai en quelques mots l'explication du dispositif, sachant qu'il s'agit d'un dispositif donc Internet, de mise en relation, mais que, et bien entendu, ce dispositif n'est pas un dispositif automatique du type on appuie, on clique et au bout du compte vous obtenez un financement. C'est pas un casino, c'est un espace de mise en relation et qui suppose d'être animé au niveau central, puisque la bourse au financement solidaire est situé physiquement à Nanterre, dans les locaux de l'IDES, l'Institut de développement de l'économie sociale. Et cette bourse a évidemment pour vocation de toucher les porteurs de projets et les financeurs au plus près du lieu de leur activité. Et donc, elle comporte tout un espace d'animation régional. Et je dirais quelques mots de l'importance de cette mobilisation au niveau régional, qui était effectivement essentielle à la réussite de ce projet. Alors, ce projet, je vous l'ai dit, réunit une douzaine réseaux nationaux, mais ce qui est tout aussi important, bien entendu, il s'agit de toucher les déclinaisons régionales de ces réseaux. Et à l'heure actuelle, il y a environ une soixantaine de financeurs répartis dans toute la France. Il s'agit de fonds territoriaux de France Active, il s'agit de CIGAL, il s'agit de plateformes d'initiatives locales et bien d'autres. Alors, le système lui-même, le système de mise en relation, comment fonctionne-t-il ? Très brièvement, il fonctionne de la façon suivante. Il y a deux espaces. Un espace public d'accès pour les porteurs de projets et un espace privé de gestion des financements, et donc dans lequel les financeurs peuvent examiner à loisir les projets, et qui permet également aux porteurs de projets de participer eux-mêmes à la discussion et à la mise en forme définitive de leur projet. Il s'agit d'un forum qui est créé dans cet espace privé. Alors, de façon très pratique, le porteur de projet donc accède donc par voie internet sur le site que je vous ai énoncé. Il remplit un questionnaire qui est très simple. Ce questionnaire est rapproché de grilles de sélection qui ont été établies par les financeurs, qui interviennent à peu près dans tous les domaines de la finance, c'est-à-dire aussi bien dans la garantie que dans le prêt, que dans l'apport en fonds propres, qu'éventuellement d'ailleurs dans la subvention ou le don. Et ce rapprochement se fait de manière quasi automatique et détermine si le profil du projet correspond aux critères qui ont été définis en ce qui concerne les financeurs adhérents de la bourse au financement solidaire. Et c'est à l'issue de ce rapprochement que soit le projet n'est pas en mesure de poursuivre dans la bourse, il est dirigé vers d'autres, notamment vers des réseaux d'accompagnement, comme par exemple les boutiques de gestion, ou bien il est orienté vers la constitution du dossier, d'un véritable dossier de financement qui comporte, en fait, qui est lui-même assez succinct, comporte un certain nombre de questions concernant une description du projet, son plan de financement, etc. Et il est transmis aux financeurs qui ont été détectés, l'un de ceux-ci assurant le rôle de parrain et organisant éventuellement un tour de table autour de ce projet. Alors, une chose très importante, c'est que le porteur de projet lui-même devient membre de l'association BFS. Bon, c'est un espace de gestion démocratique du financement d'un projet. Et c'est à l'issue du montage, de la mise en œuvre, au plan du financement de ce projet, que le projet pourra lui-même être en définitive accepté, financé, suivi et pourra bénéficier donc du service qui est rendu par cette bourse. Alors, il ne s'agit pas du tout il n'y a pas de visée de concurrence par rapport, bien évidemment, aux financeurs qui sont membres de la bourse. Bien entendu, ils ont leur propre démarche de recherche de projets ou de financement de projets qu'ils peuvent parfaitement poursuivre, mais ils ont là un instrument qui leur permet justement d'obtenir des projets qui correspondent plus directement à ce qu'ils savent faire. Et de ce point de vue, je rejoins ce que disait Patrice Bouquet-Deschaux, ça permet effectivement à ces financeurs d'obtenir des projets qu'ils auraient peut-être plus de mal à aller chercher eux-mêmes. Donc, ça fonctionne dans un bénéfice mutuel, celui du porteur de projet, dont ça facilite les démarches, et celui du financeur. Alors, ce projet, cette bourse est en évolution permanente. La mise en place qui a été effectuée il y a environ un an est à l'heure actuelle, qui était un prototype, fait à l'heure actuelle l'objet d'une réévaluation et d'un reformatage qui doit en faire un outil beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Alors, dernier point, et c'est par là que je terminerai, il y a depuis environ 6 mois, on a lancé une opération d'animation régionale qui est le complément absolument indispensable du dispositif lui-même, qui s'est porté sur jusqu'ici sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la région Rhône-Alpes, sur l'Alsace, sur PACA et bientôt sur Midi-Pyrénées. Donc petit à petit, il s'agit d'arriver à une couverture aussi large que possible. En quoi ça consiste, et ça, Amandine Albizati pourra vous le dire dans l'atelier, ça consiste essentiellement à créer un réseau de relations autour de cette bourse, de façon à la faire réellement vivre là où elle est utile, là où elle est efficace, c'est-à-dire dans les régions. Je m'arrête là pour laisser place au débat pour lequel il reste, je crois, 4 minutes.
Merci, Marcel Guzman. Bon, bien, maintenant,
nous allons passer la parole donc aux participants. Si en posant la question, indiquez bien à quelle personne vous posez la question.
Là, d'accord.
De toute façon, donner rendez-vous à ceux qui ont des questions dans l'atelier.
Oui, Yann Fradin, directeur d'une association qui fait des chantiers d'insertion dans l'environnement dans les Hauts-de-Seine et un peu sur l'ouest de Paris qui s'appelle Espace. La question qui rebondit un peu avec ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est comment on finance des associations qui ont décidé volontairement de ne pas aller sur le marché et de jouer justement la concurrence. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vendent pas de prestations de services, sauf qu'elles les vendent de façon plus informelle, de façon différente aux collectivités locales, notamment, et je pense justement, par rapport à ce qu'a dit Denis de Banton, sur les fameux 30%. Les 30% sont notamment issus d'un décret et d'une circulaire qui a sur les chantiers d'insertion, entre autres, qui donc fixe la barre maximum pour les chantiers d'insertion de solvabilisation. Là, on dit que c'est la barre minimum. Donc, je dirais, il y a une question là-dessus. Et par exemple, on a des débats sur le financement de fonds propres pour notre association avec la FAP, la Fondation des salariés d'EDF, qui sont sur le même critère. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir du marchand concurrentiel, alors qu'on cherche tout le temps à nous faire re-rentrer. Et pourquoi est-ce qu'on en sortirait? C'est qu'il y a des métiers, il y a des secteurs d'activité, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément en sortir, il y a des endroits où il faut le faire, c'est qu'il y a des secteurs d'activité au jour d'aujourd'hui, je pense à l'environnement, je pense à certains services de proximité, où je pense qu'il faut éliminer une certaine concurrence, surtout quand elle est elle viendrait au détriment d'un certain nombre d'objectifs d'animation locale et d'un certain nombre de critères de développement durable et de personnes en insertion. Pour prendre un exemple, si demain, on l'a vu sur le secteur des déchets, aujourd'hui le secteur de la collecte du tri sélectif des déchets est passé totalement à la concurrence. Pourquoi? Parce qu'on a poussé les acteurs de l'insertion à se mettre sur un créneau commercial, en entreprise d'insertion notamment, et évidemment, si à concurrence il doit y avoir choix de la collectivité, et un jour ou l'autre, il peut y avoir... Et les gros financiers, les grosses entreprises capitalistes ont évidemment tous les moyens pour casser les petites entreprises innovantes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer de sortir de ce cercle infernal? Et je dirais, j'ai l'impression que dans le débat là qu'on a pour l'instant, que les financeurs solidaires sont un peu dans ce débat cornélien et ont fait un choix qui est plutôt celui du secteur marchand et concurrentiel.
Je peux répondre pour France Active hein, sur ce point-là qui est effectivement très important et qui donne lieu à des débats hein, au sein de France Active et au sein du réseau France Active bien sûr. Je reviens quand même sur les termes. Moi quand je disais tout à l'heure 30% de recettes économiques, ça voulait pas forcément dire, en tout cas c'est la position qu'on a prise, 30% de recettes marchandes, c'est-à-dire des recettes issues de ventes de prestations dans un cadre concurrentiel avec forcément passage en TVA. Pour nous, qualifier d'économique une transaction, ça veut dire que il y a quelqu'un qui attend et en l'occurrence sur ce type de marché-là, que ce soit une collectivité locale par exemple, ne me pose aucun problème. Qu'elle intervienne auprès de l'association sous forme d'une convention qui donne lieu à une subvention sur objectif, moi je le fais rentrer dans une recette de nature économique, sous réserve bien entendu qu'on ne soit pas à 100% dans de la délégation de services publics avec une seule collectivité locale, parce que là ce serait tordre les choses un petit peu loin que de dire qu'on est dans le secteur économique. Nous on est dans de la délégation de services publics. Pour une association qui vend une prestation d'amélioration de l'environnement, d'entretien d'un certain nombre de sites, et qui vend par ailleurs, dans le même temps, une prestation de remise au travail ou de remise en situation de personnes en grande difficulté, à partir du moment où il y a recherche de plusieurs clients et qu'il y a bien une dynamique entrepreneuriale avec proposition d'un service, professionnalisme derrière, nous, on va considérer qu'on est bien dans la part de recettes économiques, et donc c'est une initiative qu'on pourra financer. Alors, c'est vrai que ça pose des questions, parce que chaque cas est particulier, et tout le monde va dire, oui, mais ça, on est bien dans de l'économique, on est bien... Bon, mais aujourd'hui, on est un peu condamné là-dessus à faire du cas par cas, et à ne pas non plus se limiter de manière trop rigide sur le fait que tout marché doit être passé par un appel d'offres ou autre chose qui effectivement pousse les associations en dehors de ce qui fait leur fondement, et là il y aurait un risque. Voilà la réponse qu'on a actuellement et qui s'examine presque au cas par cas. Enfin, il y a quand même des grandes lignes.
Merci Denis de Monton. Je vais vous proposer, parce que nous sommes depuis un moment dans le temps additionnel, si je puis dire, maintenant nous avons un atelier de finances solidaires qui est l'atelier E. Une deuxième question. Ah bon, d'accord. Alors allez-y.
Bon, je m'appelle Monsieur Mudeau, je recherche l'information concernant l'économie solidaire. J'aimerais bien savoir la différence entre votre structure de financement avec les banques, entre vous et les banques classiques, à savoir si vous trouvez un porteur de projet, très souvent il est issu d'un milieu défavorisé, il n'a pas travaillé depuis des années, au niveau relationnel il connaît personne, sinon il sera déjà aidé, et vous choisissez de peut-être financer en apportant des fonds minoritaires, comment vous estimez qu'il va pouvoir trouver les fonds complémentaires pour monter à bien ces projets. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que souvent vous intervenez, c'est bien, mais pas à l'auteur de projet. Comment il fait pour trouver le complément pour que le projet puisse aboutir?
Oui. D'abord, fort heureusement, tous les créateurs ne sont pas seuls, parce que s'ils étaient seuls, ils pourraient rien faire. Mais on a entendu tout à l'heure la description d'un certain nombre de possibilités d'action hein, avec de l'argent pour aider à remplir le plan de financement. Ça commence par les fonds propres. Hein. Chaque entreprise qui démarre a besoin de fonds propres. Alors si le porteur de projet il n'en a pas beaucoup, eh bien il va peut-être aller voir une cigale, il va peut-être aller voir Garrigue, la société de capital risque solidaire, et il va peut-être pouvoir comme ça rassembler déjà les fonds propres complémentaires. Il va ensuite aller voir Paris Initiative Entreprise, qui peut-être va lui accorder un prêt d'honneur. Et puis, s'il y a encore besoin d'un complément, il va peut-être venir voir l'ANEF pour avoir un crédit. Et c'est en mobilisant l'ensemble de ces acteurs, par exemple,
qui va pouvoir le faire. Et éventuellement, il va le faire par le biais de la bourse au financement solidaire, parce qu'en cliquant sur Internet, il va trouver une possibilité de faire connaître son projet. Et les financeurs, les 12 financeurs dont parlait Marcel Lipsman tout à l'heure, vont eux avoir connaissance de ce projet et vont donc pouvoir se dire oui, je me suis concerné ou non, ça ne me concerne pas. Mais très souvent, en tout cas c'est ce qu'on espère, ça va pouvoir se faire de cette façon-là. Et puis si le prêt a besoin d'être garanti, et bien à ce moment-là c'est France Active qui peut être intervenir en garantie sur le crédit que la MEF va faire. Vous voyez, c'est tout un ensemble de partenaires et d'acteurs qui peuvent, donc les uns s'appuyant sur les autres, qui permettent de faire en sorte que le porteur de projet puisse réaliser son projet. Mais on va aussi lui demander d'être très très moteur, parce que c'est lui, c'est son projet et celui de personne d'autre. Donc il va falloir qu'il soit très présent et qu'il soit très pugnace et très convaincant. Voilà, c'est peut-être ça la différence.
Je rajouterais juste une chose, c'est qu'à partir du moment où le projet a été soutenu par les Cigales, par la Nef, etc., etc., les banquiers sont beaucoup moins frileux. Et là, il y a un effet levier qui peut tout à fait être constaté, parce que là, ils sont beaucoup plus prêts à lui apporter de l'argent.
Il y a une autre question encore.
Oui, bonsoir. Daniel Arnaudin, je suis le directeur de l'Union régionale des SCOP. Alors, à vous écouter, hein, je vais être un peu prévôt puisqu'on est un peu entre nous.
Tu peux parler plus fort ?
Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort pour satisfaire Marcel, notamment. Merci. Bon, en deux mots, en vous écoutant, et en fonction de l'expérience que nous avons, j'ai le sentiment qu'on a atteint le terme d'une étape. C'est-à-dire que aujourd'hui, financer un petit projet, sans en discuter pour l'instant la nature, je pense que la panoplie existe, et y compris au plan local. Vous avez dans beaucoup de départements, il existe des instruments de financement qui me laissent dire, tant qu'on restera dans des petits projets, je ne vois pas où est le problème. En ce qui nous concerne, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de projet et d'hommes. Ça, c'est la première question. Je parle pour les petits projets. Et ensuite, je dirais, à l'image de cette salle ou des toilettes, je me suis demandé si l'économie solidaire et sociale avait vocation à faire dans le misérabilisme. Je suis assez favorable au positionnement de l'économie sociale en termes d'économie plurielle et alternative. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vocation à faire que du caritatif. On a vocation ici à se positionner sur des projets qui sont gourmands en capitaux. J'entendais tout à l'heure dire, bien, nous montons en fonds propres. Bah oui, mais sur 5 ans, nous faisons la même chose en ce qui concerne les SCOP. Sur 5 ans, vous m'excusez, j'appelle ça de l'emprunt. Alors c'est peut-être très déguisé, c'est très facial pour un premier projet, mais je veux dire, ça va pas très loin. Aujourd'hui, nous sommes un peu la voiture balai de l'économie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en amont sur les technologies nouvelles et nous finançons des emplois qui sont au bon marché. Quand on sait qu'aujourd'hui un emploi, même dans une PME, atteint en termes de financement au moins 500 000 francs. Excusez-moi, je date un peu, je parle encore en francs, mais mes repères sont comme ceci. Alors, moi, il me semble que si nous ne savons pas faire ensemble, je dirais, le financement de projets plus significatifs en termes de création, mais également au développement d'entreprises qui existent aujourd'hui sur le marché et qui sont créatrices en termes d'innovation, mais également d'emploi, qui est la conséquence naturelle et première de nos objectifs, je dis, je ne vois pas, dans un siècle, on reparlera de la même chose. Il me semble que cette étape, on la maîtrise, on fait tous à peu près la même chose, on est sur le même terrain à quelque chose près, on essaye de faire ce que l'on peut, mais moi, tant qu'il faut mettre 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs sur un dossier, on n'a aucun problème. Le problème, il n'est pas là. C'est que quand vous voulez créer une affaire et qu'il faut mettre 3 millions sur la table, quand vous voulez l'aider à se développer, à franchir une nouvelle étape, qu'il faut en remettre au moins autant, ou deux ou trois fois plus, je me dis, nous sommes démunis. Et qu'est-ce que j'entends parfois, même dans nos milieux, ça se pratique même dans les mutuelles. Eh bien, on externalise l'activité en le mettant en société classique pour trouver du financement traditionnel, pour pas dire spéculatif, sur ces activités. Je connais également la même démarche dans le mouvement coopératif, puisque nous avons ce type de problème
des projets qui sont industriellement et en termes de performance, qu'ils soient au plan économique et social, ils n'auront absolument pas à rougir, sauf où sont les capitaux, je dirais à la limite, pour singer le marché, qui permettent de financer sans en sortir ce type de projet. Je crois que nous devrions collectivement nous poser ces questions et y trouver une réponse. Autrement, on continuera à alimenter, je dirais, des projets qui sont tout à fait louables, mais qui tôt ou tard sortent de notre propre circuit. Et je précise quand même, pour ce qui concerne au moins les SCOP, c'est les SCOP qui sont en vie, qui permettent par solidarité de financer des nouvelles créations, voire de nouvelles... Mais si, pour faute de financement dans ces grands projets, on nous sommes obligés de les bazarder, entre guillemets, sur le marché concurrentiel et financier, pour parler comme tout le monde, on me dira quel genre de solidarité on fait, sinon de se répéter les mêmes choses dans le siècle qui vient. Alors, c'est un peu provo, caricatural, ne m'en voulez pas. Ça fait 25 ans que je fais ça et 30 ans que je traîne dans le milieu de l'économie sociale et solidaire.
Avant de passer la parole à un intervenant, simplement, je voudrais dire que, on l'a dit en début de la réunion, que la vocation de l'économie solidaire, qui n'est pas l'œuvre de Saint-Vincent-de-Paul, si j'ai bien compris vos propos, elle a aussi pour vocation, quand même, de ramasser au bord de la route ceux qui ont été jetés par l'économie libérale. Et c'est pas une mince mission, ça, déjà. Alors, quand on aura réglé ces problèmes, effectivement, on pourra, à ce moment-là, être peut-être plus généreux sur des projets dont, d'ailleurs, je partage tout à fait votre opinion.
Donc, nous
n'avons
jamais.
Oui.
Mais, moi, j'ai l'impression qu'il faut savoir s'il y a des acteurs dans la salle. En tout cas, c'est le propos que la NEF tient, hein, c'est de dire s'il y a des acteurs qui se mobilisent, ben on peut faire des tas de choses. Si la motivation n'est pas là, effectivement, on ne fera pas grand-chose. Mais chaque chose en son temps, c'est vrai qu'on a peut-être regardé du côté où il y avait le plus besoin. Maintenant, en matière de développement, bon, il y a des besoins aussi. Bon, je suppose que vous connaissez l'Institut de développement économique et social, de l'économie sociale que Marcel Hussmann a présenté tout à l'heure. Bon, je pense que c'est une des réponses, mais c'est certainement pas la seule. En tout cas, au niveau de la NEF, on n'a pas de frein à nos ambitions, et s'il y a des acteurs pour monter ce genre de choses, on se fera un plaisir de se mettre autour de la table.
Oui. Écoutez, donc maintenant, il y a un atelier de financement solidaire, c'est l'atelier E. Donc si vous avez encore des questions à poser, on se retrouve à l'atelier E. Merci de votre attention.
Ouais, je viens.
Eh ben, bon. Quel
oui,
jour de
ouais.
Oui, oui, pas tout seul. Oui.
Un prêt pour une association accueillante après l'autorisation de la commission de risque.
Oui, bah oui.
aussi. Je vous propose l'ordre des interventions suivantes. Monsieur Christian Sauter, adjoint au maire de Paris, délégué au développement économique, finances et emploi. Henri Rouille d'Orfeuille, président de Finansol. À la suite des deux premiers intervenants, nous entamerons le premier débat de la première série de questions. Ensuite, nous entendrons Monsieur Patrice Bouquet-Deschaux, membre du directoire de la Nef, Monsieur Yves Barnou, président de l'Association territoriale des Cigales Île-de-France, Monsieur Denis de Menton, chargé de mission à l'association Faux France Active, et Monsieur Marcel Hipsmann, des financements solidaires, de la bourse au financement solidaire.